Guillaume Olombel, bonjour. Vous êtes médecin biologiste et responsable de l'unité d'immunopathologie du CHU de Limoges et du centre donneur de moelle osseuse. Le 21 septembre dernier se tenait la journée mondiale pour le don de moelle osseuse. Pour commencer, pourriez-vous expliquer aux personnes qui nous écoutent ce qu'est précisément la moelle osseuse ?
La moelle osseuse, c'est un tissu sanguin qui se situe au cœur même de l'ensemble des os de notre corps et dont le but est de fabriquer les cellules du sang, que ce soit les globules rouges, les globules blancs ou les plaquettes.
Et qu'est-ce que les dons de moelle osseuse peuvent soigner ?
Alors, le don de moelle osseuse soigne un grand nombre de maladies. Il y a deux grands cadres pathologiques que l'on peut soigner avec une greffe de moelle osseuse. Les pathologies les plus fréquentes sont les cancers du sang. Plus précisément, les cancers qui vont se développer au niveau de la moelle osseuse, ce sont les leucémies. Mais on peut trouver d'autres cancers, comme les cancers des ganglions, les lymphomes, et des cancers du lymphocyte B, par exemple, le myélome. Et après, il y a d'autres pathologies beaucoup moins fréquentes que l'on peut soigner par greffe de moelle osseuse, et ce sont les maladies génétiques. Certaines maladies génétiques, où dans ces maladies génétiques, la moelle osseuse ne fonctionne plus du tout, et il faut la remplacer par un don.
Dans le cadre de ces pathologies, c'est difficile de trouver un donneur compatible ?
La recherche d'un donneur se fait de deux manières, en fait. La première manière, ça va être au niveau familial. Et à ce moment-là, on recherche parmi la fratrie et c'est une chance sur quatre d'avoir un donneur qui est 100% compatible. Et quand on ne trouve pas dans la famille, on va se rediriger vers le fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse, donc qui s'inscrivent. Et c'est un fichier qui est national, français, mais il y a plusieurs fichiers au niveau international. Et à ce stade-là, au niveau international, on a une chance sur 1 million de trouver un donneur compatible.
Est-ce que vous pourriez nous répéter les étapes nécessaires pour trouver un donneur ?
Pour trouver deux donneurs compatibles, en fait, à l'inscription d'un donneur, on va déterminer ce que l'on appelle le groupe HLA. En fait, c'est un groupe qui identifie nos cellules, c'est comme une carte d'identité immunologique de nos cellules. Et c'est de ce groupe que l'on se sert, en fait, pour rechercher une personne compatible. Quand on a une compatibilité, la recherche, en fait, se fait de manière informatique. Pour un receveur donné, on va avoir plusieurs donneurs compatibles et on va prendre celui qui est le plus compatible. Et on recherche aussi d'autres paramètres comme le groupe sanguin, le poids, le sexe, l'âge et certaines infections virales que l'on a tous dans notre enfance.
Est-ce qu'il existe des donneurs universels de moelle osseuse, comme pour le don du sang ?
Alors non, il n'y a pas de donneur universel. En fait, on est tous uniques concernant le groupe HLA dont j'ai parlé. Donc on a tous notre propre carte immunologique. Mais c'est un peu comme les sosies au final, il y a une chance sur 1 million qu'une autre personne dans le monde puisse avoir ce même groupe, bon, pas tout à fait à 100%, mais c'est un 99,9%, mais cette personne-là est suffisamment compatible pour que le don puisse se faire.
Donc c'est vraiment un coup de chance en fait, quand on trouve quelqu'un de compatible qui ne fait pas partie de notre famille.
Oui et non, parce que en fait c'est une chance sur 1 million versus 36 millions de personnes inscrites dans le monde. Voilà, c'est ce qui permet, au final, malgré tout, dans la plupart des cas, on arrive toujours à trouver un donneur compatible. Mais il faut en permanence entretenir ce registre, parce qu'il y a toujours des donneurs qui atteignent la limite d'âge et qui vont sortir du registre. Et quand on choisit un donneur, en général, on choisit une personne qui, si possible, soit la plus jeune possible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que les jeunes viennent s'inscrire sur ce registre.
Une fois le donneur trouvé, comment se déroule le don ?
Dans un premier temps, on va appeler la personne. Au moment de l'inscription, elle nous laisse ses coordonnées, téléphoniques, mail. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on contacte la personne par téléphone, c'est le plus simple, pour vérifier qu'elle soit bien disponible dans un premier temps et qu'elle soit toujours motivée pour donner. Donc il faut bien savoir que c'est jamais en urgence que l'on va donner sa moelle osseuse. Il y a toujours une période d'organisation qui est environ un mois. C'est-à-dire que le don de moelle osseuse va se faire à peu près un mois après ce coup de téléphone. Après, une fois que l'on a contacté le donneur et qu'il est d'accord, qu'il n'a pas de problème de santé particulier, donc on va d'abord le voir lors d'une consultation pré-don, à peu près 3 semaines avant le don, pour bien vérifier que son état de santé soit bon et pour faire des prises de sang, pour vérifier que, confirmer par des prises de sang, que cet état de santé est correct. Et lors de cette consultation, on va expliquer au donneur la modalité que l'on va utiliser pour prélever les cellules souches de sa moelle osseuse. En sachant que la modalité la plus fréquente, c'est la modalité donc, par filtration du sang. Donc, c'est une modalité automatisée qui se fait bon, globalement. Donc, c'est une prise de sang, c'est un peu comme une dialyse qui va être gérée par un automate branché sur la circulation sanguine. Donc, c'est la modalité la plus fréquente. Au CHU de Limoges, c'est environ 90% des cas. Sinon, c'est l'autre modalité qui est encore faite et qui est une modalité qui se fait au bloc opératoire. Voilà. Et qui est, où la moelle osseuse, les cellules souches de la moelle osseuse vont être prélevées directement au niveau d'un os du bassin sous anesthésie générale. Voilà. Après, une fois que le don est fait, le donneur rentre chez lui, il a 2-3 jours de repos, d'arrêt de travail, et on continue à le suivre régulièrement, donc on fait des enquêtes pour vérifier son état de santé une fois tous les ans.
Pourquoi dans 10% des cas, vous êtes obligé de passer par le bloc opératoire pour faire le don ?
Donc en fait, le choix de la modalité dépend de la maladie du receveur. La plupart du temps, le receveur a une maladie hématologique, comme je l'ai dit, un cancer de la moelle osseuse, une leucémie. Et dans les leucémies, ça a été prouvé par des études scientifiques que les cellules que l'on récupère, le greffon que l'on récupère par la méthode automatisée par filtration du sang est plus efficace. Mais dans les autres maladies, les maladies génétiques, et dans certaines populations, notamment la population pédiatrique, les centres receveurs préfèrent la modalité au bloc opératoire chez le donneur.
Il existe 300 000 donneurs inscrits sur le registre national français. En comparaison à d'autres pays, c'est beaucoup, c'est peu?
Alors, en comparaison avec d'autres pays, c'est malheureusement peu. Il faut savoir d'abord qu'en France, c'est un chiffre qui est en perpétuelle augmentation, de manière beaucoup plus importante qu'il y a 4-5 ans, du fait du plan greffe qui a été mis en place au niveau national et qui nous permet de respecter cet objectif de 20 000 nouveaux donneurs par an. Ce qui fait que maintenant, et c'est une très bonne nouvelle, on dépasse le cap des 300 000 donneurs. En revanche, c'est effectivement insuffisant comparé à nos voisins européens, donc l'Allemagne, qui est à 4 millions. Donc c'est un registre fusionné avec la Pologne, mais ils sont 4 millions disponibles. Et au Royaume-Uni, où ils sont 1 million.
Quel est le pourcentage de réussite d'une greffe ?
Le pourcentage de réussite est d'environ 50% à 5 ans. En sachant que dans les leucémies, la greffe de moelle osseuse actuellement encore est le seul véritable moyen pour les patients de guérir de leur maladie et de revenir à une vie normale, professionnelle, familiale, sportive. Mais voilà, le risque de rejet est présent et c'est à peu près effectivement 50% de personnes qui vont être guéries au bout de 5 ans de suivi.
Qu'est-ce qui se passe quand il y a un rejet ?
Le rejet, la plupart du temps, va être immédiat. Et donc va se traduire par une non-reprise du système immunitaire. Donc les globules rouges vont rester bas, les globules blancs vont rester bas, les plaquettes vont rester bas, ce qui donne lieu donc à un risque hémorragique, un risque infectieux. Après, il peut y avoir des manifestations d'organes, manifestations cutanées, des éruptions cutanées qui peuvent être graves, des atteintes hépatiques qui peuvent être graves, des atteintes pulmonaires. Et c'est vraiment dans les premiers instants de suivi, au moment où le patient est encore en chambre stérile, que l'on va surveiller que ces atteintes organiques ne surviennent pas et que la moelle osseuse du donneur donc reprenne bien dans l'organisme du receveur. si tout se passe bien, donc le receveur va sortir d'aplasie, donc son système immunitaire et ses globules rouges, globules blancs vont repartir. Et ensuite, effectivement, on continue le suivi. On essaye de diminuer les médicaments anti-rejet, on essaye de les arrêter même dans le cadre d'une greffe de moelle osseuse. Et petit à petit, si ça continue à bien se passer, donc le patient va pouvoir sortir, va pouvoir rentrer à domicile. Et après, c'est un suivi qui va se faire d'abord tous les mois, puis tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans. Après, si ça continue à bien se passer, si au bout de 5 ans, il n'y a plus rien de particulier, bon, c'est un suivi quand même annuel qui persiste, parce que malgré tout, les rechutes tardives restent quand même possibles.
En Nouvelle-Aquitaine, les hommes de moins de 35 ans représentent seulement 13% des personnes inscrites sur le registre national des donneurs. Comment l'expliquez-vous ?
Alors en fait, il y a beaucoup d'idées reçues sur le don de moelle osseuse. Dans la première idée reçue, c'est la confusion moelle osseuse, moelle épinière. Donc la moelle épinière étant un tissu neurologique, entre guillemets, sacré, et ce qui est vrai parce que c'est un tissu qui ne peut pas se renouveler quand il y a une atteinte de la moelle épinière. Donc on connaît tous les accidents de la route et les personnes qui peuvent rester handicapées. Donc la moelle épinière ne va pas se régénérer. Contrairement à la moelle osseuse, donc, qui est un tissu sanguin, qui se régénère en permanence et qui peut du coup donc, être utilisé pour un don et pour faire une greffe de moelle osseuse chez un malade afin de le guérir. Première chose. Deuxième chose, après, il y a une grosse idée reçue, c'est la douleur. Donc le don de moelle osseuse ne fait pas si mal que ça. Il faut savoir qu'en réalité, c'est aussi douloureux que des courbatures concernant le don par filtration du sang, parce que l'on donne un médicament avant ce don pendant 3-4 jours pour stimuler la moelle osseuse. Et donc cette stimulation de la moelle osseuse qui permet de faire sortir les cellules souches dans le sang et qui les rend récupérables dans le sang, cette stimulation pendant 3-4 jours, ce médicament va engendrer des courbatures au niveau du torse, en bas du dos, et qui sont donc facilement résolutive sous paracétamol. Et la deuxième modalité au bloc opératoire, donc là ce sont des douleurs à type d'ecchymose, comme si on avait pris un bleu, comme si on avait pris un gros coup de pied au niveau des fesses. Parce qu'effectivement, les points de ponction, là où on va prélever la moelle osseuse, se situent donc au niveau des os du bassin, au niveau des crêtes iliaques postérieures. Donc effectivement, ce qui reste après le bloc opératoire, en regard des points de ponction, ce sont deux bleus, deux ecchymoses, et qui vont faire mal quand on s'assoit, quand on marche, mais qui nous empêchent pas de vivre et qui sont là aussi calmés par le paracétamol.
Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter ?
Il faut savoir que c'est pas évident de s'inscrire au don de moelle osseuse, je le reconnais, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, mais il faut essentiellement penser qu'une leucémie, ça peut arriver à tout le monde, que ça pourrait nous arriver, et qu'il ne faut pas attendre d'être concerné, ou que notre famille soit concernée, que nos enfants soient concernés, pour se dire « tiens, je vais donner ma moelle osseuse ». Voilà, c'est véritablement un acte d'altruisme, et on aimerait bien avoir un donneur si nous-mêmes, ou notre entourage, nos enfants, étaient atteints. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles moi-même je me suis inscrit. C'est vraiment cet altruisme qu'il faut avoir en tête.